Transformation du monde, le septième jour, et nous avons commencé à lire, il me semble, vous avez lu les trois premiers versets du deuxième chapitre, c'est bien ça? Alors je vous rappelle en tout cas le sujet essentiel, prenez déjà ce texte, c'est que nous avons confronté la notion de création et la notion de nature. Et le problème qui s'est greffé là, c'est le problème du fondement de la notion de miracle. C'est bien cela que nous avons étudié la semaine dernière. Bon. Alors, je voudrais revenir un peu, un complément de ce thème. C'est que j'ai mis l'accent intentionnellement, mais de façon peut-être un peu trop formelle, sur l'arrêt de l'intervention de Dieu comme créateur. Et c'est la notion de Shabbat qui est indiquée par le texte. Lorsque le texte dit que Dieu a cessé d'agir dans le monde qu'il avait créé. Nous allons voir le verset immédiatement. Alors, là, il faut bien préciser, il y a une cessation de l'intervention de Dieu comme créateur qui est suspendue, cette cessation, ce Shabbat est suspendu lorsqu'il y a nécessité de miracle. Alors, il y a bouleversement des lois de la nature, suspension des lois de la nature, mais c'est exceptionnel. Je ne vais pas ouvrir trop de parenthèses, mais il n'y a pas de cessation d'intervention en tant que Ashgaha. Vous allez bien noter ce terme, d'ailleurs vous allez l'utiliser souvent. En français on dit providence, le terme français est un peu plus faible. Et je voudrais vous citer un midrash que je ne sais pas si vous avez dans votre parole de référence, peut-être. Moi, des références à revoir. Alors ça se trouve dans le midrash rabbin, sur le verset. Sur le verset 2, sur la fin du verset 2, Vaishbod Bayom Ashvi, Mikol Melarto, Asher Asa. Et c'est sur l'expression que Dieu a cessé d'intervenir, donc c'est la notion de Shabbat, de tout son ouvrage, Mikol Melarto, Asher Asa, qu'il avait fait. Alors le Midrash dit, Mimelechet Olamu, Shabbat, Velo Mimelechet Peshaim et Tzadikim. Il est possible que ce soit Tzadikim ou Shai. Je vais vérifier dans le Midrash Rabbah. Et ça veut dire que Dieu cesse d'intervenir au niveau de son œuvre de créateur, le monde qu'il avait fait au niveau de la création, non seulement créer, faire apparaître à l'existence, mais organiser jusqu'à la Asiya, Melarto Asher Asa. Vous avez tiré à ces différences de niveau de ces deux termes, Bara, Asa. Et mais non pas de ce que nous appelons l'histoire. Or, l'histoire qui est définie et jugée du point de vue des critères moraux, et non pas de l'œuvre des tzadikim et des rshaï, des justes et des méchants, pour dire ça en français. Ça veut dire que, bien qu'il y ait Shabbat au niveau de la création comme création, il n'y a pas Shabbat au niveau de la hashgacha, c'est-à-dire de la hanhagat haolam, du fait de diriger le monde. Et c'est d'emblée dit dans ce midrash que cette direction du monde est du point de vue du jugement moral de ce qui se passe dans l'histoire des hommes. Bon, si l'idée est suffisamment claire, c'est pas la peine de la reprendre. Je crois que c'est un point important. Rappelez-vous bien de ça. Lorsqu'on parle du Shabbat du Créateur, qui le cas échéant, s'il y a piquoir nefesh dans l'histoire de l'humanité, est suspendu et c'est un miracle. Et nous avons vu quels sont les aménagements intellectuels pour situer la notion de miracle dans le problème création devenue nature. Il me semble bien que nous avons vu ça en détail la dernière fois, mais il n'y a absolument pas cessation d'intervention au niveau de la providence. Je crois que c'est très intentionnellement que le Midrash a formulé cela de façon aussi précise, aussi dense, aussi claire. Parce qu'il existe, dans les tendances de la culture humaine, des doctrines selon lesquelles bien notre monde a eu un créateur, mais qu'ensuite le monde est abandonné. Et qu'il n'y a plus aucun lien entre le créateur et sa création. Ce sont des doctrines pessimistes qu'on trouve dans certaines mystiques, dans certaines gnoses, mais ce n'est pas la peine de perdre du temps avec ça. Je pense que c'est bien clair. Et l'expérience du monde, le caractère caché de ce qui s'est dévoilé une fois au temps de la prophétie, risque de mener souvent l'homme à ce pessimisme-là. Le monde fonctionne, mais semble-t-il, il fonctionne hefker. Quelqu'un m'avait demandé si c'est toi, non, c'est pas la dernière fois. Et Et cette doctrine se formule en général ainsi que le monde a eu un créateur, mais ensuite il est abandonné dans l'espace, dans la solitude de l'espace. Enfin, vous connaissez tout ce genre de doctrine. Alors je voulais le préciser. Alors le deuxième point que je voudrais compléter sur ces versets, c'est de faire l'exégèse de deux termes qui apparaissent là. C'est le terme de bracha et le terme de kedusha. Le terme de bracha n'apparaît pas pour la première fois, il est déjà dans le premier chapitre, mais en tout cas le terme de kedusha apparaît pour la première fois, et nous allons essayer d'aborder ce problème. Il faudrait beaucoup plus de temps pour élucider ces termes, mais au moins de commencer, parce qu'on aura à les utiliser par la suite assez souvent. Bracha en général, on traduit par bénédiction, et kedusha par sanctification. Je préférerais, dans l'usage du français, le mot de sainteté. Une première précision, d'abord sur le mot de kedusha. Faites bien attention que chez les traducteurs français, et parfois des gens de très bonne foi, vous avez le terme de sacré. La notion de sacré est une notion païenne, elle est dérivée de la pensée magique, et c'est un terme à éviter de façon systématique. Ça renvoie à une toute autre perception des choses dont nous parlons, mais qui est surtout le propre de la pensée chrétienne. Et par exemple, vous avez l'idée de sacrement, tous ces comportements intellectuels qui sont dérivés de la pensée païenne. Il faut donc se méfier de ce type de traduction. Et l'idée que l'on peut formuler, c'est l'idée de sainteté. La différence entre le sacré et la sainteté, c'est que le sacré ne tient pas compte de la moralité, alors que la sainteté dépend de la moralité. Là, il y a un thème extrêmement important sur lequel vous réfléchirez par vous-même, il suffit de le cadrer de cette manière-là. Les goyim ont eu l'expérience du sacré, mais elle est toujours en dehors de la moralité. Et parfois elle est non seulement amorale, mais immorale. Et plus elle est immorale, plus elle est sacrée, enfin, pas la peine de faire des analyses trop poussées, mais vous comprenez le problème qu'il y a là. Et je vous donnerai un petit exemple qui m'a beaucoup frappé pendant les événements de la guerre. Après la guerre, j'ai eu à avoir des conversations avec les aumôniers chrétiens de l'armée française, moi j'étais aumônier juif, et puis j'ai posé une question à un de ces aumôniers, parce que maintenant on est habitué à ce qui s'est passé, mais là on venait de le découvrir. Alors j'ai posé la question, est-ce que l'Église va décider de revoir sa doctrine du baptême, qu'ils appellent le baptême? Dans l'Église, quelqu'un qui est baptisé est sauvé. Quelqu'un qui n'est pas baptisé est perdu. C'est clair. Bon, il faut nuancer, il faut toujours nuancer, mais ici, c'est très clair. Alors, j'ai posé la question suivante. Les SS qui étaient baptisés sont sauvés, mais leurs victimes qui n'étaient pas baptisées sont perdues, d'après la doctrine chrétienne. Imaginez jusqu'où l'absurde peut arriver. Voilà où mène la catégorie du sacré. Le baptême est un acte sacré qui sauve. Celui qui n'est pas sauvé par cet acte sacré est perdu. C'est complètement en dehors de la moralité. Est-ce que c'est clair? Un exemple, je crois, est très franc. Alors que l'essentiel du message des prophètes hébreux, c'est que le critère de la sainteté, c'est d'abord la moralité. Et si on comprendra ça, on comprendra la Bible. Alors imaginez cet absurde de la projection d'une mentalité païenne sur le texte de la Bible, et puisqu'encore une fois on manie les concepts français, ce mélange entre l'idée de sacré et l'idée de sainteté. Alors je crois qu'il est nécessaire de débroussailler cela à l'avance. Est-ce que c'est suffisamment clair?
Je suis sûr d'avoir référence
sur quelqu'un qui dirait que c'est disons baptisé. Vous ouvrez n'importe quelle bréviaire de n'importe quel théologien de n'importe quelle église. Ce qu'ils appellent les péchés mortels.
Oui,
mais c'est très différent si quelqu'un est baptisé ou pas. Bien, si tu veux, je chercherai dans mes archives une référence chrétienne, mais je suis absolument certain de ce que je dis. Tant plus, je te raconte un événement. Mais il est évident que les théologiens chrétiens auxquels j'ai parlé étaient assez embêtés de ma question. Et il y en a un qui, avec beaucoup d'humour, m'a dit « Oui, mais au moins, ils ne sont pas hérétiques. » On parlait des SS. Et c'est des habitués à ce genre de mentalité. Vous savez, il y a énormément de tendances, de stratégies judaïsantes chez les chrétiens pour camoufler ces problèmes-là. C'est bien impressionnant. Et il est bien évident qu'il y a là un contentieux qui n'a pas fini d'être réglé. Bien. Et si vous voulez, on pourrait un jour avoir une séance avec un prêtre chrétien de Jérusalem. Il vous dira son avis. Donc, d'accord. Alors, on revient au problème. Nous avons donc deux notions à essayer d'éclaircir. Et c'est la notion de bracha et la notion de kedusha. Alors, on va lire le verset que cela concerne. Vaybarech Elokim et yom hashvi'i, vaykadesh oto. Et Dieu bénit le septième jour, premièrement en traduction simple. Et Dieu bénit le septième jour, vaykadesh oto, et il le sanctifia, qui beau Shabbat, car c'est en lui le septième jour que Shabbat, il a cessé d'agir, mikol melarto, de tout son ouvrage, asher bara Elokim la'asot, que Dieu avait créé pour faire. Et la fin du verset, je la laisserai provisoirement de côté, et je reviens sur le début du verset. Les deux premières parties du verset. Et Dieu bénit le septième jour. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire bénir un jour? Qu'est-ce que Dieu a dit au septième jour? Que Dieu te bénisse. Voilà. Et on va essayer d'élucider l'idée de bénédiction. Qu'est-ce que ça veut dire bénir quelque chose ou quelqu'un? Dans ce cas, c'est le monde du septième jour. Je nuance un peu pour aller plus vite. Le monde du septième jour a été béni. Et qu'est-ce que ça veut dire bénir quelque chose, bénir quelqu'un? Indépendamment du fait qu'en français, on se sert de ce terme pour dire un souhait de bénédiction, mais on laissera ce sens de côté, puisqu'évidemment, il ne va pas là. Alors, en hébreu, c'est un terme transitif, c'est un terme d'action. Ça veut dire qu'il faudrait plutôt employer le mot de bénéfaction que de bénédiction. Rendre béni. C'est un acte transitif, comme on dit en grammaire, qui consiste à transformer une réalité ou un être de l'état de non-béni à l'état de béni. Est-ce que vous comprenez la question? Alors, qui a une idée ou un exemple pour essayer d'éclairer cela? Quelle est la différence entre une réalité brucha, bénie, qui a reçu cette opération qui l'a rendue différente, qui l'a rendue, et cette opération s'appelle la bracha, et puis une réalité qui n'a pas reçu cela. Et vous allez voir, encore une fois, la frontière très très délicate entre la pensée magique et la pensée religieuse, en tout cas biblique. Et on pourrait avoir la tentation de dire, mais on y a mis du sacré. Alors c'est béni. Je donne un exemple. Prenez la notion en français de pain béni. Vous allez voir à quel point des superstitions risquent subrepticement de s'introduire même dans les comportements spirituels juifs, parfois. Eh bien, quand, par exemple, dans la religion de style magique, on bénit le pain, et je ne vais même pas prendre l'exemple de enfin, nous sommes dans une école juive, l'exemple des comportements chrétiens, ça veut dire qu'on met quelque chose de sacré là où il n'y avait pas, par une formule magique de bénédiction. Alors le pain devient béni, il y a une vertu magique. Alors, c'est clair ce que je dis là. Alors que dans le comportement de la liturgie juive, de la halakha, ça consiste à reconnaître qu'on a reçu la nourriture comme bénédiction, l'utiliser. J'avais une référence dans le chapitre 9 de la Gemara de Bracha. Avant de dire la bracha, c'est Hekdesh. Hekdesh, c'est un mot qui ressemble à Kadosh, mais ce n'est pas le même. Ça veut dire que ça nous est interdit, ça ne nous appartient pas. Et je dirais même qu'il faudrait dire tabou. Kadosh. Aussi ce sens-là, mais surtout dans Hekdesh. Et dire la bracha, c'est reconnaître que nous l'avons reçu en cadeau. Alors on a le droit de l'utiliser. Sinon, ça appartient au Créateur qui l'a créé. Kol ha-mehane, me'olam hazeh, bli bracha, nikra, mo'il, bakodashi. C'est une phrase en... Alors ça aussi, il faut l'utiliser. Alors vous voyez, c'est un comportement complètement inverse. Le pain sur lequel on a dit Birkat Hamotzi est un pain qu'on a le droit de manger. On a enlevé le Hekdesh. Tandis que dans les religions de type païenne, au contraire, on va y mettre quelque chose de magique qu'on appellerait le béni. Oui, habituez-vous à cette différence de mentalité, je pense que c'est suffisamment clair. Ken ?
Est-ce que pour nous, c'est défendu de manger un pain qui a été béni comme ça ?
Je veux te dire, à la limite, ça n'a aucune importance puisque rien n'a été fait. C'est des fantasiotes. Okay. Mais il vaut mieux s'en garder parce qu'on risquerait de croire que. T'as compris ce que je veux dire ? À la limite, il y a une discussion.
Quand on est invité maintenant chez quelqu'un qui est pratiquant chrétien, bon, ça peut être des amis, mais si jamais ils font des prières avant...
J'ai compris ta question, tu as bien fait la pose. Quand j'ai dit le pain béni des chrétiens, je pense à l'hostie de la messe. Ce n'est pas un pain sur lequel ils ont remercié. Là, ils ont remercié, c'est très joli. Non, c'est très différent. Tu as bien fait de poser ta question. Parce qu'on parle français. Okay. Alors, il y a deux niveaux différents. Soit dire la formule de la bracha, soit, dans notre cas, où c'est Dieu qui bénit, faire la chose de bénéfaction. Alors, on va distinguer ces deux termes. Okay. Yopévaler, dans la liturgie, dire la formule de bénédiction, c'est deux choses. Soit, c'est une formule de bénédiction où on souhaite que Dieu bénisse, et la formule, c'est que Dieu te bénisse, c'est lui qui bénit. Petite parenthèse, et après je reprends l'analyse. Vous savez qu'il est interdit de regarder les Kohanim pendant la Birkat Kohanim. Vous savez cela. Bon, la raison essentielle, c'est qu'on risquerait de croire que c'est eux qui bénissent. Alors qu'en réalité, ils formulent un souhait de bénédiction, Yébarechecha Hashem, que Dieu te bénisse. C'est clair ? Bon. Quand c'est eux qui souhaitent cela, d'ailleurs ils ont une mitzvah de le souhaiter pour nous, alors la bénédiction vient de Dieu. Donc c'est un cas particulier quand c'est le Kohen qui bénit. Mais il est bien évident que là, il s'agit d'une formule de bénédiction. Il y a un terme français un peu barbare, ça vient du grec, ça s'appelle l'eulogie, E-U-L-O-E-logie. Ça va nous aider d'ailleurs tout à l'heure pour arriver à un deuxième sens. Alors voilà le premier sens, la formule de bénédiction. Deuxième sens que je viens de vous citer, c'est reconnaître Dieu comme source des bénédictions. Et donc reconnaître que ce que nous allons, les hénotes, mais comment ça s'en ce dont nous allons jouir est une bénédiction que Dieu nous a donnée. Autrement, ça nous serait interdit, ça fait partie de sa création. Nous sommes des invités et dans un monde qui appartient à celui qui l'a créé, pour nous donner le droit de l'utiliser, c'est Birkot HaNehemim, pour nous donner le droit de l'utiliser, il faut dire une bracha. Si tu peux trouver la réponse à la bracha, on va la mettre. C'est la différence entre les deux versets. Hashamayim shamayim Hashem, baref atan bnei adam. Kan lifna bracha, kan acharei bracha. Bien. Maintenant, et d'ailleurs je vais compléter ce que j'ai dit sur la Birkat Kohanim. En tout cas dans le Ritz Faradi, j'ai peu souvent vu ça dans le Ritz Ashkenazi, dans la prière, mais dans le Ritz Faradi, quand on a fini la Birkat Kohanim, le Chazan dit le verset qui suit dans la Torah, et c'est Vesamu et Shemi Albene Israël va ani avarechem. Ça veut dire ils placeront mon nom sur les enfants d'Israël et moi je les bénirai. Et il y a deux lectures dans le Talmud, moi je les bénirai à eux les enfants d'Israël, et il y a une deuxième lecture et moi je bénirai les Kohanim. Parce qu'il faut bien que quelqu'un les bénisse aussi. Alors c'est clair que c'est Dieu qui bénit, qui rend béni. Et il y a donc, dans l'expression hébraïque être mevarech, il y a cette idée de, premièrement, de souhait que Dieu bénisse, et d'autre part, dans la formule des brachot, le fait de reconnaître que c'est Dieu qui est source de bénédiction. Voilà quelle est la formule. Baruch ata Asher, Elokeinu melech haolam she Asher. Ça veut dire, nous te reconnaissons comme Baruch, comme source de bénédiction, toi Hachem, maître du monde, qui nous a donné ceci. Ça veut dire, je reconnais que c'est une bénédiction. Vous voyez pourquoi les traducteurs ont cette difficulté de traduire cette formule des brachot. Dans vos livres traduits, si vous en avez, il y a toujours écrit « Loué sois-tu » au lieu de « Tu es source des bénédictions ». Ce qui est le sens en hébreu. Si vous voyez les mefarchim de la Tfila, nous dirons « Mazé Baruch, Mekor Abrachot » la source des bénédictions. Pourquoi ? Parce que les traducteurs ont été gênés par l'idée qui va bénir Dieu. Ils ne peuvent pas dire béni sois-tu. Mais parce qu'il y a une erreur de langue, il n'y a pas écrit sois-tu. Il y a écrit tu es, Baruch Ata. Il n'y a pas écrit Baruch tu es. Est-ce que vous comprenez la vie ? Ça veut dire nous reconnaissons que Dieu est source de bénédiction et vous verrez tout de suite que nous n'adressons pas nos prières au Boré, mais nous adressons toutes nos prières au Baruch. C'est pourquoi la Hamida, Shmoneh Esrei, c'est Shmoneh Esrei Brachot. On demande des Brachot. Et c'est pourquoi la formule qui véhicule la tefila de demande, c'est une Bracha. Vous comprenez ? Et là, je vous donnerai un enseignement partiel, parce que ça risquerait de nous mener trop loin. Et que pourquoi la liturgie ne s'adresse pas au Boré, au Créateur, mais au Baruch, à lui qui est Créateur, mais défini comme source des bénédictions. C'est par là, ça. Et premièrement, à cause du sujet lui-même. C'est-à-dire que si le monde n'avait pas été béni au moment du septième jour, au moment du Shabbat, nous ne pourrions pas exister. Nous serions des êtres de nature et notre existence ne serait pas celle de l'homme. C'est ce que nous allons voir dans le texte lui-même. Mais surtout, c'est parce que, en particulier après l'arrêt de la prophétie, il n'y a que vraiment des élites exceptionnelles qui comprennent qu'est-ce que ça veut dire créateur. Et quand vous serez avancé dans vos études, vous vous rendrez compte que pour nous qui étudions au niveau de ce qu'on appelle Torah Taniglé, la Torah dévoilée, disponible à tous, telle qu'elle est dévoilée, l'idée de création est un objet de foi. Moi, j'en ai parlé un peu dans les premiers cours, d'une idée que l'intelligence humaine ne comprend pas. Ça, c'est une idée contradictoire. Yesh me'ayim. Il n'y a que pour les Hachmei Kabbalah qu'on comprend comment ça s'est opéré, de quoi il s'agit, mais c'est caché pour ceux qui n'ont pas 40 ans d'études. Et c'est clair, 40 ans c'est âge mental. Et par conséquent, dire que l'objet, celui devant qui on prie, c'est le Boré, il y a ici un obstacle de connaissance intellectuelle, ça voudrait dire que seuls les théologiens très avancés en théologie pourraient prier. Alors, et c'est notre sujet d'ailleurs, on apprend que Dieu, au moment du Shabbat, a laissé une trace de sa présence comme Boré, et c'est la Bracha. Or, n'importe qui peut diagnostiquer la Bracha dans le monde. C'est-à-dire que c'est disponible à tous, de savoir qu'on est devant le Baruch. Je ne proposais pas d'en parler maintenant, de ce point-là, pour que tout ce qu'on y est, c'est nécessaire, important de le comprendre. Je vais vous raconter une histoire qu'on raconte dans les yeshivot. Les yeshivot de Lituanie en particulier. Ceux qui sont avancés, qu'on en demandait pourquoi faire Lituanie. Alors on raconte qu'il y avait deux étudiants de yeshiva qui ont discuté toute la nuit pour savoir si Dieu existe ou pas. Et alors à la fin de la nuit, ils ont décidé qu'il n'existe pas, vraiment. Et j'étais tellement assoiffé de leur discussion qu'il y en a un qui a pris un verre d'eau et qui a dit avec une ferveur dont vous n'avez aucune idée, « Baruch Atah ». Alors je lui dis, haram, on vient de décider qu'il n'existe pas, tu dis une bracha sur un verre d'eau. Alors il a répondu, il existe ou il n'existe pas, c'est des idées. Et tu vas m'empêcher de dire une bracha sur l'eau qui m'étanche la soif. Vous comprenez ce que je veux dire ? La bracha, c'est évident. Les discussions théologiques, intellectuelles, bon, c'est des discussions intellectuelles. Mais la bracha, c'est là où on rend compte qu'il y a un créateur qui a béni le monde qu'il nous a donné. Voilà, c'est ça qu'il faut découvrir et diagnostiquer. Est-ce que c'est clair ? Alors, on n'a pas encore répondu au fond de la question, mais je voudrais vous y approcher.
Vous avez dit pour ceux qui ont étudié la Kabbalah, les Kabbalah, eux, arrivent à donner une explication rationnelle
ou j'ai pas dit rationnelle.
L'explication.
C'est toi qui as ajouté. Et ça reste incompréhensible pour les rationalistes.
Mais c'est totalement abstrait, l'explication.
Abstrait, c'est pas tellement le mot. C'est comprendre, c'est pas abstrait.
Mais comprendre, ça passe par la raison.
Non, ça c'est ce que disent les rationalistes. C'est l'âme qui comprend, c'est pas la pensée. La pensée, c'est un instrument, un véhicule dont l'âme se sert pour comprendre. Je vous donne un exemple que j'ai entendu une fois d'un de mes professeurs de physique. Il disait, l'œil, c'est une lentille qui voit. Alors moi, je lui ai répondu, mais une lentille ne voit pas. Vous avez compris ça. Il y a quelqu'un qui voit à travers la lentille. Je me rappelle aussi d'une analyse de Bergson. À l'époque, il était en conflit avec des matérialistes qui revenaient découvrir les centrales, le central téléphonique. Okay. Et alors, les matérialistes étaient fous de joie. Ça y est, on a compris comment le cerveau fonctionne d'un central téléphonique. Et personne ne leur a dit, vous oubliez qu'il y a une téléphonie. Vous avez compris. Alors, il faut se méfier de ça. Par exemple, vous avez une expression que vous entendrez assez souvent. Les ma'lam yasekhel. Vous connaissez ça? Les ma'lam yasekhel. C'est une donnée qui est au-dessus, au-delà de l'intelligence. En général, les gens qui n'ont pas étudié disent ça veut dire que c'est absurde. Vous êtes habitué à ça? Non, ça veut dire qu'il y a une opération de comprendre, de connaissance, qui est au-delà de l'intelligence que dans la culture actuelle on appelle la raison. Okay? Alors habituez-vous bien à ça. C'est le cœur qui comprend. Et le cœur, ce n'est pas cet organe qui envoie le sang. C'est le cœur dans le sens hébreu du terme. Okay? Le siège de la chokhma, de la vie. Si vous connaissez l'arabe, je vous dirai en arabe, c'est exactement le même sens. Quand on dit le cœur en arabe, ce n'est pas le cœur des romantiques. Okay? Inclination du cœur. C'est ce qu'il y a de profond qui fait que chacun est ce qu'il est et celui qu'il est. C'est ce qu'on appelle le cœur. Okay? L'air. Bien, je reviens au sujet. Okay. La question que j'ai posée, je voudrais bien la formuler. Et on découvre que la liturgie toute entière ne s'adresse pas au Boré, mais au Baruch. C'est-à-dire, et là, je crois que l'idée est importante, notez-la bien, je la reprends de façon plus précise. Ce qu'on apprend ici, c'est que Dieu va cesser d'être dévoilé. Mais si sa présence est cachée, le monde risque de prendre l'apparence d'un enfer. Alors il laisse la bracha comme trace. Sinon, le monde n'est pas vivable. Comprenez bien ceci dans la cohérence des sujets qui se posent à nous. Un monde où on perçoit non pas la présence de Dieu, mais son absence, c'est un enfer. Réfléchissez bien là. Alors, pour qu'on n'arrive pas là, Dieu laisse la bracha avant de se cacher. Après, je verrai la deuxième notion. Il est d'ailleurs très relié, mais on va aller lentement dans tout. Alors voilà ce que je disais, c'est que n'importe quelle créature, je parle des hommes, des femmes, et même les animaux ont leur expérience de cela, mais c'est un autre sujet. N'importe quelle créature, à l'échelle universelle, peut avoir l'expérience de la bracha. Ça veut dire n'importe quel homme peut être le croyant de la Bible. Alors que seuls de rares théologiens peuvent comprendre qu'est-ce que c'est la création. Et c'est pas du tout normal pour un message de confier son message, un message spirituel, de confier son message à la capacité d'intelligence de gens qui ont des diplômes. Ce message a été donné pour les êtres vivants, pas pour les professeurs de théologie. Vous comprenez ? Réfléchissez bien à ça. Le Dieu auquel nous fait croire la Bible, ce n'est pas un fondateur de religion. Ce n'est pas un professeur de théologie. C'est un créateur du monde. Et par conséquent, les réalités dont on parle à la Bible sont les réalités de l'existence, les réalités de la médecine du monde. Et les occidentaux modernes civilisés, abonnés au gaz et à l'électricité, ont été artificialisés par l'intellectualité grecque, qui est devenue européenne. Et on croit que ça passe par des idées. Ça passe pas par des idées, ça passe par des expériences de réalité que les idées mettent en ordre, expliquent, communiquent. Mais l'expérience profonde n'est pas du tout une expérience rationnelle, rationaliste. C'est une expérience de vie, c'est une expérience d'âme. Nous ne sommes pas des théorèmes. Et je ne sais pas si c'est clair ce que je dis, mais c'est-à-dire l'homme de la culture contemporaine s'est artificialisé. Vous croyez que Dieu a créé un monde pour que nous ayons un livre, pour passer des examens, pour faire des mots croisés là-dessus. Et essayez de vous réveiller à ça. Dieu a créé un monde, et il n'a pas créé une école. Et il a mis un monde autour. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire très, très brièvement. Je reviens au problème. D'ailleurs, une école qui réussit, ce n'est pas une école où on rentre, c'est une école d'où on sort. Par exemple, en français, on dit, on rentre à Polytechnique. Mais on sort de centrale. Vous comprenez ce que je veux dire ? C'était une blague pour détendre l'atmosphère. Bien. Je reviens aussi. Donc ici, la notion qui apparaît, c'est la notion de bracha, qui est un fait, qui est une réalité. Alors on est au-delà de la formule du souhait que la bracha demande. Bon, c'est clair. Ou même de la formule de reconnaissance que c'est une bracha. Et il y a aussi des brachot de reconnaissance tout court. Par exemple, Birkat Hamazon. Mais la Birkat Hamotzi, par exemple, c'est la bracha par laquelle je reconnais que c'est une bracha, donc je peux manger. Est-ce que je peux vous ouvrir une petite parenthèse en vous parlant d'une des maladies qui touche l'adolescence qui s'appelle l'anorexie? Est-ce que vous avez une idée de ce que c'est l'anorexie? Déjà, non, ça touche surtout les filles, mais enfin, ça touche aussi les garçons, qui, à un certain âge, ont une réticence à manger. Je pense que vous avez diagnostiqué cela. Bon, sachez que c'est une maladie assez grave. Il faut aider les enfants à s'en sortir quand ça les touche. Par exemple, vous avez des jeunes filles qui se trouvent des alibis. Pourquoi tu ne manges pas? Pour garder la ligne. C'est des alibis. Alors, vous voyez des jeunes gens ou des jeunes filles qui boivent du vinaigre, ils se rendent malades pour ne pas risquer de... Qu'est-ce qui se passe là? Énormément de choses. Mais je vais dire surtout ce qui concerne notre sujet. Il y a d'abord un problème de relation avec les parents, on aura peut-être un jour l'occasion de parler, mais c'est surtout le fait que c'est des parents qu'on reçoit la nourriture. Mais il y a surtout l'éveil de la conscience morale à un certain niveau. Et là, il y a une formule qui est très importante, vous la retiendrez, que recevoir, c'est très bien, à condition de mériter. Et si on n'a pas le sentiment qu'on a mérité, que c'est justifié, alors on a une réticence à recevoir. Or, c'est par la nourriture qu'on reçoit l'être qui nous fait exister. Si on ne mange pas, on n'existe pas. Et donc, c'est là que ça porte. Il y a une espèce de réticence à manger, surtout la nourriture qu'on reçoit des parents. Ça se greffe. C'est un autre problème. Dans les familles traditionnelles, quand on s'aperçoit qu'un adolescent ou une adolescente n'est plus par là, eh bien, on l'envoie manger chez la tante ou chez la grand-mère. Et la nourriture a un autre goût, et puis ça lui passe. Et il revient quand il revient. Vous avez compris? Bon, ça se réfère à toute une série de comportements au temps où les parents ne savaient plus élever leurs enfants. Dans les conditionnements et dans les fonctionnements de la vie la plus élémentaire. Les rapports entre parents et enfants sont devenus sophistiqués d'une telle manière dans la société moderne que c'est plein de... d'aberrations. En hébreu, on appelle ça des aberrations. Ça vient de ce que l'enfant n'a pas suffisamment le sentiment qu'il est invité chez ses parents à partir d'un certain âge. Il est invité, c'est un échange de civilité. On reçoit et on rend en disant merci. Pour le Talmud, dès qu'un enfant est capable de chercher sa nourriture dans les poubelles, 3 ans et demi, les parents n'ont plus d'obligation de le nourrir. Normalement, c'est lui qui doit gagner sa nourriture. Et alors, passé cet âge, il est bien évident que les parents ne vont pas le mettre à la poubelle, passé cet âge, on est invité. Et alors, si les parents n'arrivent pas à percevoir cela, et laisse croire, c'est de mon pain que tu manges, il y a blocage. Bon. Il y a plusieurs dimensions à ce problème, mais j'espère vous faire comprendre un peu de quoi il s'agit. Bien. Alors, on revient au sujet.
Là, qu'est-ce que c'est, selon ce que c'est des quotas réunis?
Parce que, mais ça fait partie des quotas réunis. Nous avons des jouissances à travers tous les sens. À travers tous les sens, nous distillons le paysage. Enfin, la personne humaine se constitue en autophagissant son univers. Alors, on est surtout habitué à la nourriture, ben c'est évident, mais toutes les sensations nous constituent, nous nourrissent. Peut-être je vous ouvrirai encore une réparation de tout ce qu'il y a de Hanara. Une conscience qui ne peut plus disposer des jouissances à travers les sens pendant 5 ans. Et bien sûr, encore une fois, on est habitué à l'eau, le pain. Mais il n'y a pas que ça. Il y a la lumière, il y a le parfum, il y a la musique, il y a tout ce que le monde nous donne à travers nos fenêtres et que nous constituons en personnalité. Et donc, il y a une bracha pour chaque amour. Et je ne sais plus de quoi je vais vous parler en super parenthèse. Enfin, on va revenir au texte. Voilà, et je reviens sur la formule que je disais. Ce qu'on est en train de découvrir ici, c'est la base de la sensibilité religieuse juive, hébraïque d'abord. C'est que nous découvrons qu'il y a de la bracha dans le monde. Et c'est la trace du Créateur. Voilà, j'espère que on a peu de temps à étudier ensemble, alors j'oublie les choses assez vite. Comprenez bien que c'est important de savoir que le monde a été créé et que Dieu est premièrement le Créateur. Mais pour nous, c'est un objet de foi, c'est un objet de connaissance que pour ceux qui comprennent de quoi il s'agit. Et il faut étudier longtemps avant d'arriver. Dans l'état du monde où nous nous trouvons, nous n'avons pas expérience de cela. Qu'est-ce que ça veut dire créer ? En fait, nous faisons semblant de ne pas avoir expérience. Je veux dire, c'est pas l'objet du cours. Peut-être à la fin de l'année, quand on serait plus avancé en hébreu, on le reprendra. Et, en fait, nous avons expérience. Qu'est-ce que ça veut dire que quelque chose apparaît de rien, qui n'était pas là ? C'est la naissance d'un enfant. Et c'est pourquoi c'est la naissance de l'enfant qui est le signe de la bracha dans le texte. Et alors on fait semblant de suivre Pasteur quand il disait qu'il n'y a pas de génération spontanée, okay, mais vous comprenez quel est le sujet. En réalité, quand un enfant naît, eh bien, c'est pas son corps qui est né, c'est lui, sa présence, il n'a rien à voir avec ses parents. Il arrive là, invité. Et les jeunes parents le diagnostiquent. Chaque enfant arrive avec son monde à lui, et c'est quelqu'un qui n'était pas là et qui est là. Donc on a expérience de cela, mais on ne comprend pas comment ça fonctionne par l'intelligence. On le comprend plus haut que l'intelligence, ou plus profond, si vous voulez. Ça revient. De la même manière, d'ailleurs, qu'on a l'expérience de la néantisation quand quelqu'un disparaît de ce monde. Il disparaît pas, mais de ce monde, et on voyage. Donc, on revient à notre texte, que je vous ai indiqué, c'est cela. La bracha, nous allons la comprendre comme la trace de la présence de Dieu qui s'est cachée. Qui s'est cachée en vue de quoi ? En vue de ce que la liberté de l'homme puisse être fondée et que l'histoire commence. Vous vous rappelez, du point où nous étions arrivés la dernière fois. Et, simplement, je vous donne une nuance des diégèses. Je ne sais pas si nous aurons le temps de le voir maintenant, mais vous pouvez le revoir dans les midrashim que ça concerne. Pour ceux qui sont un peu plus avancés en hébreu. Vaïbarech Elohim et Yomashvili, ça s'est fait le sixième jour. Vaïkadesh Oto, c'est le septième jour. C'est-à-dire, le septième jour, c'est le jour de la Kedusha. C'est le jour où Dieu considère le monde comme Kadosh pour lui. Et que ça veut dire Kadosh pour lui, j'interviens pas. Mais, puisque le monde du septième jour est Kadosh pour lui, il risque d'être maudit de cette absence de celui qu'il a créé. Alors, pour qu'il ne soit pas maudit, il le bénit. Il met la bracha le sixième jour pour que le septième jour, qui est le jour de la Kedusha, le septième jour soit un monde vivable. Et c'est le monde dans lequel nous vivons, le monde de ce. Est-ce que c'est clair ? Maintenant, je vais vous parler de la bracha. Je vais vous donner un petit exemple qui me revient en mémoire, que j'ai l'habitude de citer. Et je crois que l'homme moderne a perdu un peu cette expérience. Et on la retrouve que chez les paysans, qui sont encore capables de diagnostiquer cela. Ceux qui ont le contact avec, je dirais pas la vie de nature, mais la bracha qu'il y a dans la nature. Et encore une fois, nous sommes des êtres artificialisés dans les villes, dans les sociétés modernes, où il y a le gaz et l'électricité, comme je disais. Alors je me souviens d'un livre qui s'appelle Le Petit Prince, ça doit vous dire quelque chose. De Rabbi Saint-Exupéry. Alors, il y avait un chapitre qui m'a beaucoup frappé. C'est Le Petit Prince. Raconte qu'il est sur une planète où il y a une seule rose. Vous vous rappelez de cela ? Alors, il comprend que c'est une rose. Dans notre monde, il y a une telle prodigalité de bracha qu'on ne se rend plus compte qu'est-ce que c'est que la bracha. Et on croit que c'est naturel. Voilà, vous avez compris ce que je veux dire ? Alors, la bracha est dans toutes les réalités qui nous font exister, d'ailleurs. Le goût des choses, le parfum des choses, la rose. Voilà, je crois que par vous-même, vous devez réfléchir à ça, diagnostiquer cela. Or, quand on est en bonne santé, et c'est pas la peine d'être théologien pour ça, il vaut mieux pas. Quand on est en bonne santé, cette expérience de la bracha est accessible à l'échelle universelle. N'importe qui peut être un fils d'Abraham. C'est cela qu'Abraham a diagnostiqué lorsqu'il a reconnu son créateur. Je racontais un midrash que vous étudierez d'autre part. C'est que voilà comment Abraham enseignait ce qu'il savait de son Dieu, le créateur du monde. Il tire de Bovo. Et bien attention en hébreu, ça ne veut pas dire qu'il a reconnu qu'il avait un créateur. Il a reconnu qui est son créateur. Il tire de Bovo. C'est clair. Et parce qu'il y avait des croyances qui, par raisonnement, pouvaient arriver à l'idée, ce monde ne marche pas tout seul, il y a donc quelqu'un caché, pas caché. Mais avec Abraham commence autre chose. Qui est celui-ci? Et il invitait, c'était la vertu de l'hospitalité, il invitait les passants, il invitait les invités, il leur donnait à manger. Et à la fin, il leur disait, nous allons remercier celui grâce à qui on a mangé. Et les invités avaient tendance à remercier Abraham. Alors c'est là qu'Abraham commence à leur expliquer qu'on ne pourrait pas exister si on ne reçoit pas ce qui nous fait exister du Créateur. Juste à leur faire découvrir que nous sommes des créatures, c'est-à-dire des êtres qui n'existons que parce que nous recevons l'être qui nous fait exister. C'est là que le judaïsme va commencer. Jusque-là, c'est une expérience universelle. Et le judaïsme va commencer en ajoutant le problème de la moralité, c'est-à-dire à condition de le mériter. Et vous comprenez pourquoi ça se relie à l'exemple de l'anorexie que je vous ai cité, et surtout pourquoi, finalement, j'ai pas compris d'ailleurs, les psychologues appellent ça, les psychiatres, l'anorexie mentale. Il doit y avoir des raisons, mais en tout cas ça m'échappe. Et là, je pense avoir dit suffisamment de choses pour éclairer un peu cette notion de bracha. Vous voyez pourquoi on dit une bracha sur un verre d'eau? Parce que l'eau, c'est pas seulement une substance qui, en chimie, sera appelée H2O. Ça, c'est l'eau distillée. Personne n'a jamais étanché sa soif avec de l'eau distillée. Il y a un juge qui a une fois demandé, est-ce qu'on dit une bracha sur l'eau distillée? Et je vais demander à mon rabbin, parce que c'est une question nouvelle pour moi. Notez bien que je ne sais pas. Mon opinion, c'est que ça m'étonnerait. On dit une bracha sur le goût de l'eau. Quand vous étudierez les lois de la cachoute, vous verrez l'importance du goût dans toutes les lois de la cachoute. Et d'ailleurs, vous savez, quand on prend un médicament, on ne dit pas bracha. C'est clair, vous savez. Et il ne faut pas croire que si on est plus, alors on dit une bracha, c'est mieux quand même. Il ne faut pas. Vous savez pourquoi? Parce qu'un médicament, c'est dangereux. Et on ne dit pas bracha sur des choses dangereuses. Un médicament, c'est dangereux pour les gens qui sont en bonne santé, donc c'est dangereux.
Oui, mais sur des gens qui sont en bonne santé, c'est pas dangereux.
Oui, mais comme il s'agit d'une réalité qui en soi est dangereuse, on ne dit pas dangereux.
Et si c'est un sirop qui est un peu dangereux?
Quand même, parce que c'est un médicament. Vous savez, ces choses-là, on ne peut pas tricher avec. C'est bien qu'on a une tendance à poser des questions qui ressemblent un peu à ça. On ne triche pas. Bien, alors je reviens aussi au sujet. Et on apprend, et je vous donne une indication.
Quelle est donc la fonction de la bracha? La bracha ne fait pas que l'eau s'assoie.
C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, et on verra le moral. La fonction de la bracha que je dis, par exemple, sur un verre, c'est me donner la permission de le boire avant le Hekdesh. C'est ce qu'on va dire dans la demande. Ça veut dire que c'est la formule par laquelle je reconnais que c'est une bracha. Mais la difficulté, c'est que nous raisonnons en français. Alors, je crois que ça vaut la peine de réfléchir sur ce point. Je reprends les définitions que nous avons vues tout à l'heure. Il y a premièrement la formule de bénédiction qui consiste à souhaiter une bénédiction. D'autre part, par exemple, la Birkat Kohanim. D'autre part, et la formule est très simple, c'est que Dieu te bénisse. À la limite, c'est ça, toujours. D'autre part, il y a la formule de la bracha que je dis lorsque j'ai une jouissance de quoi que ce soit du monde. Et c'est une formule de reconnaissance dans le sens fondamentalement, je reconnais que, pas encore je suis reconnaissant, mais je reconnais que C'est une bracha et c'est à cette seule condition que j'ai le droit de l'utiliser. Autrement, il y a ici une catégorie religieuse sur laquelle je vais revenir. Si je n'étais que dans le monde du Boré, il ne m'appartient pas. Il s'appelle Hegdesh, consacré à lui. Et habitué à cette notion. Là, la Kdusha, c'est quelque chose sur laquelle on n'a pas le droit de porter la main. Ça ne m'appartient pas. Par exemple, le mariage s'appelle Kiddushin. Ça veut dire cette femme qui, jusqu'au moment du mariage, était disponible en principe pour un mariage.